Aujourd'hui, on va voir le dernier des petits prophètes pré-exiliques. Alors, c'est peut-être un nom que vous n'avez jamais entendu avant. Il y a 12 petits prophètes. Il y en a 9 qui ont écrit, donc pas des grands volumes. C'est pour ça qu'on les appelle petits, c'est au niveau du volume d'écrit. Qui ont écrit avant que le royaume de Juda, dont la capitale était Jérusalem, soit emporté, emmené, forcé à aller en exil à Babylone sous les attaques du roi Nabucodonosor, ou Nabucodonosor, comme on dit en vieux français. Et il y en a 3 autres qui ont prophétisé après l'exil. Donc il y a Agée, Zacharie et Malachie. Et donc aujourd'hui, je vous invite à vous tourner dans le texte du prophète, dans la prophétie de Sophonie. En anglais, ça ressemble à peine, c'est Zephaniah. Je trouve très joli aussi, mais c'est le même mot, traduction française ou anglaise. Donc si vous ne savez pas où c'est, j'ai bien aimé aussi l'anecdote que racontait Alistair en disant que dans sa Bible aussi, on n'arrêtait pas de changer la place du prophète Habacuc. Donc je vais vous aider, vous allez au début du Nouveau Testament, Matthieu, ça vous devriez savoir trouver dans votre Bible. Et puis vous reculez, vous tournez les pages pour revenir en arrière, vous passez Malachie, Zacharie, Agée, et vous tomberez sur Sophonie. Il y a un commentateur qui raconte l'histoire suivante. Il dit qu'en fait, souvent, une histoire dépend de la façon dont elle est racontée, du point de vue selon lequel on la voit. Et il dit par exemple, il y avait une chose terrible qui est arrivée dans une banlieue. Il y avait un enfant qui pleurait, qui avait peur. Et il y a un méchant monsieur qui est venu au milieu de la nuit, qui s'est emparé de l'enfant, qui l'a kidnappé, qui est parti ensuite dans une voiture volée et qui l'a emmené dans un endroit où là, on a mis l'enfant sur un autel. Il y a quelqu'un qui est arrivé avec un grand couteau bien effilé qui brillait sous une lumière. Et là, cette mauvaise personne a attaqué l'abdomen de cette pauvre enfant. Vu comme ça, c'est terrifiant. Mais en fait, ce qui se passait, c'était le papa qui avait emmené son fils au milieu de la nuit pour se faire opérer de l'appendicite. Donc tout dépend de la façon dont on raconte les choses et on les voit. Quand on a étudié le prophète Nahum, on a vu qu'il y avait un endroit qui disait « L'Éternel est bon ». J'ai dit que c'est quelque chose qu'on doit mettre dans notre logiciel, savoir que quelles que soient les circonstances, quelles que soient les choses qui nous arrivent, Dieu est bon. Mais c'est vrai qu'on peut avoir l'impression qu'on est victime d'un hold-up, d'un kidnapping et qu'on va nous tuer. Mais en fait, ce papa qui emmenait son fils, c'était par amour qu'il faisait ça. Il aurait pu dire « je ne vais pas faire peur à mon enfant, je vais le laisser tranquillement souffrir et peut-être on verra ce qu'il en adviendra ». Mais par l'amour, il a agi. Et Dieu est bon, Dieu est amour. Mais des fois, il doit agir dans le cadre de cet amour. Et il nous fait passer par des épreuves. En principe, sauf si on est sadomasochiste, on n'aime pas la souffrance. Mais c'est vrai qu'on a dit que Dieu nous parle dans la paix, mais il nous crie dans la souffrance. On l'entend mieux quand on est dans les difficultés. Et là, on va voir que ce prophète, Donc c'est le dernier des prophètes qui parle avant l'exil à Babylone, du peuple de Jérusalem, du peuple de Juda, la destruction de ce royaume et de cette ville et du temple. Il le permet, il le fait parce qu'il aime Juda, il aime Israël. Et je parlais récemment avec quelqu'un en crise qui me disait « Tout ce qui m'arrive, je ne peux pas croire que Dieu est amour. Pourquoi tout ça m'arrive ?» Et je disais à cette personne « J'ai pas de réponse au pourquoi que tu te demandes. » Mais la question du pourquoi, c'est la mauvaise question. Dieu n'est pas obligé de nous répondre et de nous dire pourquoi nous passons par certaines épreuves, par certaines choses tragiques même. J'ai dit, la question dans les moments de crise, c'est pas pourquoi, la bonne question c'est vers qui. Vers qui on va se tourner dans les moments tragiques de nos vies, qui vont arriver tôt ou tard, les moments de deuil, les moments de trahison, les moments de maladie, les moments de très mauvaises nouvelles. Et si on se demande pourquoi, on va devenir fou. Par contre, on peut aller vers celui qui a les réponses, mais qui nous les donnera ou pas, mais celui qui nous aime, et être réconforté par lui. Comme un enfant qui est malade, qui a la fièvre, il ne dit pas pourquoi est-ce qu'il y a un microbe qui m'a communiqué cette maladie qui fait que ma température a augmenté pour lutter contre l'infection, etc. Non, il va vers sa maman. Il l'embrasse, il est réconforté par elle. Et nous aussi, je dis à cette personne, tout ce que je peux te recommander, c'est d'aller vers Dieu et de lui dire tout ce que tu ressens et de le laisser te consoler. Et donc, ici, on va voir l'amour difficile de Dieu. On va lire et commenter en lisant le texte. Je vous invite donc à Sophonie, premier chapitre, premier verset. Parole de l'Éternel adressée à Sophonie, fils de Couchi et descendant de Guédalia, d'Amaria et d'Ézéchias, durant le règne de Josias, fils d'Amon sur Juda. Toujours intéressant ces références historiques. Ça montre que la Bible est ancrée dans l'histoire, c'est pas un joli conte ou une légende. Ce sont des personnes qui ont réellement existé, des personnes qui ont réellement eu des relations entre elles et des relations avec Dieu qui nous sont décrites. Là, ce prophète Sophonie, on a plus d'informations sur lui que la plupart des prophètes, des petits prophètes. Je crois que je vous avais parlé de Nahum en disant qu'on ne savait pas trop d'où il venait, que peut-être il venait de la ville de Capernaum, une ville d'où Jésus a établi son ministère en Galilée, mais on n'est pas sûr de ça. Je crois que Alistair vous avait dit qu'on ne savait pas non plus grand-chose sur Habacuc. Et là, par contre, on a le pédigré, on a la ligne de les ascendants, donc l'arbre généalogique en quelque sorte de ce prophète Sophonie. Et ce qui est intéressant et la raison pour laquelle on pense qu'elle est présente et que l'Esprit Saint a décidé de nous la mettre à disposition, c'est qu'en fait, si vous vous souvenez un peu de l'histoire d'Israël, il est question d'Ézéchias. D'Ézéchias qui a été un grand roi de Judée, de Juda, à Jérusalem. Et donc ce prophète Sophonie serait l'arrière-arrière-petit-fils de ce grand roi Ézéchias. Il est dit qu'il a enseigné sous le règne de Josias. Il a reçu cette prophétie, il l'a transmise à ses contemporains et nous l'avons reçu par la préservation de la Bible et de l'Esprit Saint qui veut nous parler aujourd'hui avec ce vieux texte. Il est dit que donc il a prophétisé au temps de Josias. Josias était un bon roi, un très bon roi, qui par contre était descendu d'un très mauvais roi, le roi Manassé. Manassé qui s'en était pris aux croyants à son époque. De façon étrange, on va sans doute, si on continue avec le Seigneur, le retrouver au paradis. Manassé, il a fait des choses horribles, mais il s'est repenti. Et donc, il devrait être avec le Seigneur, repentant, mais pardonné. Et sous son règne, les croyants étaient persécutés. Et on pense que le nom de Sophonie, ça veut dire « l'Éternel cache » ou « qui est caché par Dieu ». Par l'Éternel. Et sans doute, il avait besoin d'être protégé, d'être caché pour ne pas être mis à mort par Manassé. Et ce roi Josias, il a été l'instrument d'un grand réveil. Il est devenu roi à l'âge de... On se dit que Macron est jeune... Mais là, il est arrivé roi à l'âge de 8 ans, presque un peu plus âgé que certains des petits qui sont à l'école du dimanche ou qui sont plus jeunes. Mais il était guidé par Dieu et à l'âge de quand il est devenu adulte, il a redécouvert, il a fait du nettoyer le temple et on a redécouvert dans le temple la parole de Dieu. On avait perdu la parole de Dieu dans le temple de Jérusalem. Incroyable, et pourtant, ça nous guette tous. On peut perdre la parole de Dieu, la Bible, dans l'Église. Il y a beaucoup d'églises qui se disent chrétiennes aujourd'hui, où on ne parle jamais de la Bible. On fait de la psychologie avec des grands principes d'amour, de pardon, mais la Bible n'est pas utilisée comme source de l'enseignement. On peut perdre la parole de Dieu dans son propre foyer. On peut avoir une jolie Bible, bien en vue, sur l'étagère, mais si on regarde de près, on voit qu'il y a beaucoup de poussière sur la parole de Dieu. Et il faut que cette parole, vous la mangiez. C'est Jérémie qui disait « Tes paroles ont été trouvées, elles sont devenues pour moi la joie de mon cœur et je les ai avalées. » Si la parole de Dieu reste quelque chose que vous regardez un peu le dimanche quand on vous donne la page, c'est déjà bien et je ne suis pas là pour vous dénigrer, mais il faut avoir prié si vous ne l'avez pas, mais lire la parole, avoir soif de l'étudier. Et il y a plein de... Aujourd'hui, on a vraiment aucune excuse. On a des librairies du Congrès à notre disposition sur notre téléphone. On peut trouver des études bibliques. On peut faire participer physiquement à des cultes, participer à des études bibliques, à des groupes de maison, lire ensemble. Et c'est toujours très bien de confronter ce qu'on reçoit avec ce que reçoivent les autres, parce que c'est enrichissant. Mais tout ça pour dire que il avait redécouvert la parole, et il y avait même eu une fête de Pâques qui avait rassemblé tout le pays, c'était un réveil. Malheureusement, on ne peut pas instituer le réveil. Nous-mêmes, le mouvement Calvary Chapel est issu d'un mouvement de réveil parmi les hippies, qui avaient des longs cheveux, et qui étaient jeunes et beaux et forts. Et... Le problème, c'est que le réveil, il affecte les personnes qui sont directement touchées. Après, on essaye d'institutionnaliser le réveil en formant une dénomination, en formant des églises. Mais s'il n'y a pas cette intimité, cette relation directe avec Dieu, ça reste lettre morte. Et le réveil qui s'est passé sous Josias, en fait, il a été très superficiel. Et déjà à l'époque, en lisant d'autres prophètes, on voit que ce n'était pas quelque chose qui avait profondément touché tout le peuple qui assistait aux réunions. Et là encore une fois, le réveil, c'est personnel. C'est formidable quand ça se répand, c'est encourageant, les prisons se ferment, il n'y a plus de prisonniers à enfermer, les tavernes font faillite, les gens ne veulent plus boire d'alcool, se saouler, il n'y a plus de trafic de drogue. Mais ça doit commencer, il y a des effets bénéfiques au niveau de la société, mais ça doit commencer dans le cœur de chacun, dans mon cœur. Ce n'est pas un tapis magique sur lequel on essaye de... un tramway sur lequel on voudrait sauter pour dire « ça y est, je suis dans le réveil ». Il faut d'abord avoir ce réveil dans son propre cœur. « Je ferai tout disparaître de la surface de la terre », déclare l'Éternel. Là, on va voir un passage jusqu'à peu près au verset 3... du chapitre 2, un passage qui va nous parler du jugement imminent de Juda. Juda, encore une fois, c'est le royaume du sud. Après Salomon, le royaume avait été... David, Salomon, le royaume avait été divisé en deux. Il y avait le royaume du nord, qu'on appelait des fois Samarie, avec comme capitale Samarie. Et puis il y avait le royaume du sud, qu'on appelait aussi Juda, dont la capitale était Jérusalem. Le royaume du nord était parti à Ninive, avait été emporté en exil déjà. Et là, Dieu avait accordé du temps au royaume du sud, à Juda. Mais là, il annonce qu'il va juger. Et c'est intéressant de voir que Sophonie ne prend pas de gants. Il annonce tout de suite la mauvaise nouvelle. Boum ! Je ferai tout disparaître de la surface de la terre, déclare l'Éternel. Une chose aussi qui est bonne de rappeler lorsqu'on étudie les prophètes, c'est que la prophétie, c'est inspirée par Dieu et qu'il y a souvent une réalisation immédiate, donc du vivant des personnes qui lisent la prophétie ou du vivant de leurs enfants. Et il y a souvent une révélation, un accomplissement ultime à la fin des temps. Et là, on va parler du concept de jour de l'Éternel qui fait référence justement au temps où, lorsque l'Église aura été enlevée, il va y avoir une période, c'est pas seulement un jour, ce qu'on appelle par ailleurs la grande tribulation. Et donc, il y a pour le prophète qui reçoit ces prophéties, c'est un peu comme vous, lorsque vous allez en randonnée, vous voyez une première colline et puis derrière il y a peut-être le Mont Blanc ou une montagne très haute, mais vous avez l'impression qu'elles sont juste l'une derrière l'autre. En fait, ça, tout se télescope, mais quand on arrive au sommet de la première montagne, on s'aperçoit que l'autre est encore très loin et très haute. Et là, c'est un peu la même façon, il va y avoir des réalisations imminentes. Et donc en l'an 586, il va y avoir d'abord une attaque en l'an 606 avant Jésus-Christ de l'empereur Pire de Babylone qui va faire une des premières attaques, et puis en 586 Juda va vraiment tomber, le temple va être détruit, Jérusalem sera prise et les habitants de Juda sont emmenés en exil à Babylone. Et puis il y a cette réalisation ultime où Dieu va mettre fin au temps de l'homme, au temps de sa grâce, dans un sens. Il va venir enlever son Église, et puis il va y avoir une période de tribulation, de souffrance extrême, de 7 ans, à la fin desquels nous reviendrons avec Jésus, et nous allons régner 1000 ans sur la terre avant qu'il y ait un nouveau ciel, de nouveaux cieux et de nouvelles terres. Ça, c'est digne de toute une étude, notamment avec Matthieu 21-24 et puis toute l'Apocalypse. L'Apocalypse est un livre que certains hésitent à étudier, alors qu'en fait il y a, il y a un plan dans le livre même qui explique très bien les différentes phases de ce qui va se passer à la fin des temps. Mais là, ce prophète, il reçoit ça et il nous dit, c'est l'Éternel qui parle, je ferai tout disparaître de la surface de la terre, les hommes, les bêtes, les oiseaux du ciel, les poissons de la mer, tout ce qui fait trébucher les méchants, j'exterminerai les hommes de la surface de la terre, déclare l'Éternel. Pas très rassurant ça. Je déploierai ma puissance contre Juda, contre tous les habitants de Jérusalem. Je supprimerai de cet endroit ce qui reste de Baal, le nom de ses ministres, des prêtres, et des prêtres avec eux, ceux qui se prosternent sur les toits devant les corps célestes. Ça, c'est l'astrologie. L'astrologie, c'est intéressant qu'aujourd'hui, si vous dites que vous êtes chrétien, on se moque de vous, on pense que vous êtes sectaire, que vous êtes rétrograde, que vous n'êtes pas scientifique. Mais les mêmes personnes qui vous accusent de ces choses-là sont les mêmes qui achètent les journaux, les magazines, où il y a des pages entières consacrées à l'horoscope. Et l'horoscope et l'astrologie, c'était vraiment l'idée que notre vie, notre destin, dépend de l'emplacement des étoiles lorsque nous naissons. Et on nous dit que parce qu'on croit à la création, on est stupide. Ne vous laissez jamais intimider par ceux qui, au nom de la science, vous disent que votre foi ne tient pas la route. C'est l'inverse. La Bible est toujours confortée, affirmée par les dernières découvertes scientifiques. C'est pas une question d'intelligence, c'est une question de cœur. Si les gens rejettent Dieu, c'est qu'ils ne veulent avoir personne à qui rendre des comptes et ils n'aiment pas ceux qui leur disent qu'il y a un Dieu à qui nous devons rendre des comptes. Ce qui est merveilleux, c'est que si on se tourne vers ce Dieu, il nous aime, il aime tous les hommes, mais il va nous montrer sa grâce, il va nous bénir. Donc, ceux qui montaient sur les toits devant les corps célestes, ceux qui regardaient la position des étoiles, ceux qui se prosternent en jurant par l'Éternel, tout en jurant par leur roi. Alors le mot roi, là, c'est intéressant. C'est le roi, le mot hébreu Melech. Mais dans la Bible, second 21, c'est traduit par leur roi. Dans d'autres Bibles, peut-être les vos Bibles, c'est traduit par Moloch ou Milcam. Et Milcam et Moloch, c'était un faux dieu pour qui il fallait sacrifier des enfants. Il y a des récits terribles de ce roi Manassé, justement, qui a sacrifié un enfant en le mettant dans les bras chauffés à blanc d'une statue en métal, des choses horribles. Et donc, il s'attaque à l'idolâtrie. Et l'idolâtrie, on a les récits historiques dans deux rois, deux chroniques de cette période qui sont tristement révélateur de ce qui se passait. Je supprimerai, verset 6, ceux qui se sont détournés de l'Éternel, ceux qui ne cherchent pas l'Éternel et qui ne le consultent pas. Autrement dit, il n'y avait pas de prière. Les gens ne... Il y avait ceux qui s'étaient détournés de l'Éternel. Il y en avait qui continuaient à faire les deux, ils croyaient en l'Éternel, mais ils croyaient aussi en Moloch, en Milcam, en Baal, le roi de la fertilité, avec tous les cultes attenants, qui étaient de l'immoralité sexuelle. Il allait détruire ceux qui se sont détournés de l'Éternel, ceux qui ne cherchent pas l'Éternel et qui ne le consultent pas, autrement dit, qui ne prient pas. Silence devant le Seigneur, devant l'Éternel. En effet, le jour de l'Éternel est proche, car l'Éternel a préparé un sacrifice, il a consacré ses invités. Cette expression du jour de l'Éternel revient beaucoup sous la plume du prophète Sophonie. Et encore une fois, c'est ce jour de jugement qui va commencer avec la grande tribulation à la fin des temps. Et de façon plus immédiate, c'était l'attaque par Babylone et la chute du royaume en 586 avant Jésus-Christ. Et là, l'Éternel a préparé un sacrifice, il a des invités, mais les invités, le sacrifice, ce sont les invités eux-mêmes. Il va intervenir contre les princes et les fils du roi, contre ceux qui portent des habits étrangers. Apparemment, ils avaient un peu honte de leur coutume et ils regardaient ce qui se faisait dans les autres royaumes, dans les autres pays. Et ils ne portaient plus les vêtements qu'ils devaient porter en tant que juifs. Ce jour-là, verset 9, j'interviendrai contre tous ceux qui sautent par-dessus le seuil pour remplir de violence et de fraude la maison de leur Seigneur. On a des allusions à des pratiques avec le roi Dagon, où il y avait aussi des seuils sur lesquels il fallait pas toucher, il fallait passer. Donc il y avait des superstitions qui continuaient dans le temple qui n'aurait pas dû. Et j'aimais bien la description d'Aleister du tableau de Guernica, en disant qu'il y avait des touches ici et là qui ont composé une image de l'horreur, de la mort, de la violence. Et là aussi, c'est quelqu'un qui est pétri de connaissances bibliques, et il fait des allusions à des faits qui sont décrits dans la Bible. Et on n'a pas le temps, dans le cadre d'un survol, de voir, mais c'est là que c'est intéressant. Une façon d'étudier la Bible, c'est de lire le Nouveau Testament, et chaque fois qu'il y a une référence historique, et maintenant nos Bibles sont généralement assez bien faites, d'aller lire le passage correspondant dans l'Ancien Testament, et ainsi d'avoir vraiment une vision globale de ce que Dieu veut nous communiquer. Ce jour-là, déclare l'Éternel, verset 10, il y aura des cris à la porte des poissons. Je pense que c'est ce qu'on appelle la porte de Damas aujourd'hui, c'est la porte du nord, et c'était les poissons qui venaient de la mer de Galilée et du Jourdain, arrivaient par là. Il y avait des lamentations dans la ville neuve, c'était le quartier riche, et un grand désastre sur les collines. Gémissaient habitants de Maktesh, c'était le quartier du marché, car le peuple des marchands est détruit, tous les peseurs d'argent sont supprimés, c'était les banquiers. Les assurances. À ce moment-là, je fouillerai Jérusalem avec des lampes et j'interviendrai contre les hommes immobiles sur leur lit, ceux qui disent dans leur cœur « L'Éternel ne fait ni bien ni mal ». Leurs richesses seront pillées et leurs maisons seront détruites. Ils ont construit des maisons, mais ils ne les habiteront plus. Ils ont planté des vignes, mais ils n'en boiront pas le vin. Deux points, donc. Il y avait tous ces marchands qui comptaient sur leur argent. Tous ces gens pour qui l'argent était devenu l'idole principale, toute ressemblance avec notre période actuelle est purement fortuite, bien sûr. Mais combien d'hommes aujourd'hui ne vivent que pour l'argent, pour s'enrichir, pour faire des opérations financières, et ils sont immobiles sur leur lit. Alors c'est pas leur lit L-I-T, c'est leur lit L-I-E. Qu'est-ce que c'est que la lie? Il y a une expression en français, on dit boire le calice jusqu'à la lie. La lie, c'est le dépôt qui se fait dans une bouteille, dans un récipient qui contient du vin ou des jus de fruits et qui se déverse jusqu'au fond. Et si vous avez certains bons vins, vous voyez, vous arrivez à la fin, il y a cette poudre dedans, on dit qu'est-ce que... Et si on reste en place, content de sa situation. C'est une image très, très puissante. Lorsqu'on reste dans son jus, en quelque sorte, on ne fait pas de progrès dans notre relation avec Dieu. On peut être très religieux, mais Dieu va souvent causer des transvasements. Il va nous verser d'un pot vers l'autre. Et c'est comme ça qu'on affinait le vin. On y avait de la lie qui s'était déposée, on versait en évitant de secouer, ce n'était pas de l'orangina, on versait pour qu'on garde la poussière de grains de raisin et tutti quanti dans le fond de la première bouteille. Et en bougeant ainsi d'un récipient vers l'autre, c'est un peu comme si le vin était soumis à des circonstances nouvelles à chaque fois, et il se bonifiait, il devenait de mieux en mieux. Je ne sais pas aujourd'hui s'il y a ce souci, mais sans doute il y a un procédé, je ne suis pas expert. Mais nous, dans nos vies, on n'aime pas le changement. Il y en a qui aiment changer tout le temps. On s'habitue. Et le changement, ça prend de l'énergie, ça prend de nouveaux repères. Il faut se refaire. Quand on déménage, il faut retrouver ses marques, on dit. Où est-ce qu'on va chercher le pain? Où est-ce qu'on le courrier? Où est la poste, etc. Et Dieu aime bien lorsqu'on est un peu trop stagnant, nous faire bouger. Et là, ceux-là, eux, ils se complaisaient dans leur situation. Ils se la coulaient douce, comme on dit. They take it easy. Ils cherchent pas à se remettre en cause. Et à l'époque, c'est un auteur connu qui a écrit sur le déclin et la chute de l'Empire romain. Il décrivait l'attitude des Romains, c'était donc pas nécessairement les Juifs, mais il disait que pour les gens à l'époque, ils pensaient que toutes les religions se valaient, qu'elles étaient toutes aussi vraies. C'est ce qu'on entend aujourd'hui. Ah ben on a le même Dieu, on est musulman, vous êtes chrétien, vous êtes athée, on a tous. C'est pas grave. Les philosophes pensaient que toutes les religions étaient fausses. Ce que pensent nos grands philosophes aujourd'hui, qui se moquent de la foi des autres. Et puis il y a les politiciens, eux, ils pensent que toutes les religions sont très utiles, parce qu'elles permettent aux gens de s'occuper d'autre chose que de leurs agissements. Ils étaient donc dans cette situation où ils ne voulaient pas changer, et ils disaient dans leur cœur, l'Éternel ne fait ni bien ni mal. Dieu est lointain, s'il y a un Dieu... Toutes les religions, c'est la même chose. Si on sait que tout ça, c'est du mensonge, c'est pas grave. Mais il disait, il va intervenir contre ces hommes qui se complaisent dans la neutralité, en se disant, c'est pas grave, tout ça. Leurs richesses seront pillées, leurs maisons seront détruites. Tout leur argent ne leur servira de rien. Quand arrive le moment où un avion s'écrase, ça va, Nancy n'est pas là, on prend l'avion mercredi. Que vous soyez en première classe, en train de siroter du champagne, ou à l'arrière, coincé entre 5 personnes au milieu, là, en train de boire un petit jus de pomme, quand l'avion se crache, on ne vous demande pas, vous étiez en quelle classe étiez-vous ? Ah, première, alors c'est par là. L'égalité des hommes devant Dieu, devant la mort. Ils avaient même des choses qu'ils avaient plantées, des vignes, mais ils n'allaient pas en goûter le vin. Et le jugement va être très intense. Ça décrit le jour de l'Éternel, verset 14. Le grand jour de l'Éternel est proche. Il est proche, il arrive très vite. Le jour de l'Éternel fait entendre sa voix. Et le héros pousse des cris amers. Ce jour est un jour de fureur, un jour de détresse et d'angoisse. En hébreu, il y a un jeu de mots, c'est un jour de Shoah et de Unmeshoah. Je le sais parce que j'ai lu qu'en fait, souvent il y a des... On perd en traduction parce que c'est difficile de conserver ces allitérations. Un jour de ruine et de destruction, un jour de ténèbres, et d'obscurité, un jour de nuages et de brouillard, un jour où retentiront la trompette et les cris de guerre contre les villes fortifiées et les hautes tours. Je plongerai les hommes dans la détresse, ils marcheront comme des aveugles, parce qu'ils ont péché contre l'Éternel. Le jugement va être intense, il est certain. Je plongerai les hommes dans la détresse, ils marcheront comme des aveugles, parce qu'ils ont péché contre l'Éternel. Leur sang sera versé comme de la poussière, et pardonnez l'image, leurs intestins comme du fumier. Ni leur argent ni leur or ne pourront les délivrer. Première classe ou économique, c'est la même chose. Le jour de la fureur de l'Éternel, toute la terre sera dévorée par le feu de sa jalousie, car il détruira et ce sera terrifiant tous les habitants de la terre. » Ça allait se réaliser lorsque Jérusalem allait être prise et le temple détruit. Et aussi à la fin des temps, quand il y a cette période de grande tribulation. Et la Bible explique que si nous appartenons à Jésus, nous serons enlevés avant cette période de grande tribulation. Ça sera l'enlèvement de l'Église. Donc, c'est une description terrible, mais en fait, il nous invite, verset 1 du chapitre 2, « Réfléchissez, examinez-vous, nation dépourvue de honte. » Aujourd'hui, on vit dans une société où des gens font des choses qui sont filmées, qui sont diffusées sur les écrans de télé, les écrans de cinéma, des choses qui auraient fait rougir nos grands-mères, nos grands-pères, il y a seulement 40 ans, 50 ans. Les gens ne rougissent plus. Il n'y a plus ce sentiment de faire des choses qui sont mal et qui devraient nous porter à être honteux et repentants. Avant que le décret ne survienne et que ce jour ne disparaisse comme la balle, avant que la colère ardente de l'Éternel ne vous atteigne, avant que le jour de la colère de l'Éternel ne vous atteigne. Il y a cette répétition, cherchez l'Éternel, vous tous, tous les humbles du pays qui mettez ces règles en pratique, recherchez la justice, recherchez l'humilité, peut-être serez-vous épargnés le jour de la colère de l'Éternel. Ça, c'est un bon rappel aussi. On se dit, oui, oh, c'est terrible ce que faisaient ces mauvaises personnes, mais les croyants, eux, Dieu dit, vous aussi, vous qui mettez ces règles en pratique, qui êtes dans l'humilité, recherchez la justice, recherchez l'humilité. Ne soyez jamais sûr de votre coup en disant, mais moi, je vais à l'église le dimanche, j'ai accepté le Seigneur tel jour. Faisons un effort conscient tout le temps pour vivre d'une façon qui honore et plaise au Seigneur. On sait qu'il nous pardonne lorsque nous péchons, mais nous ne nous disons jamais cela pour permettre de pécher la conscience en paix. C'est une chose terrible que de faire ça, et si c'est quelque chose que vous avez déjà fait, on peut demander pardon au Seigneur pour ça et lui demander son aide pour ne jamais le refaire. Il a parlé du jugement de Judas, maintenant il va parler du jugement des nations, c'est-à-dire des non-juifs. Les chapitres 2, versets 4 à 15, et là on ne va pas regarder en détail, mais il fait un peu le tour. Il parle d'abord des Philistins, Canaan, donc c'est à l'ouest. Malheur à ses habitants. À la nation des Kérétiens, c'était peut-être le pays de Crète, ça ressemble, Crète, Kérète. Les régions deviendront des pâturages, des terrains pour les bergers, des parcs pour les troupeaux. Ces régions seront pour le reste de la communauté de Juda. C'est intéressant, il dit que les territoires à l'ouest de Jérusalem, donc c'est ce qu'on appelle la Palestine ou les territoires palestiniens, la bande de Gaza et ces terrains seront de façon ultime pour le reste de la communauté de Juda. Le reste, c'est un concept très important dans l'Ancien Testament. C'est ceux qui vont être, on va être les croyants résiduels. Ce serait une façon plus exacte de décrire la chose. C'est ceux parmi les juifs qui vont venir à Jésus, on dirait aujourd'hui les chrétiens messianiques, et ce reste au retour de Jésus, ça sera à l'époque, ça a été dévasté aussi, et les juifs pouvaient, ceux qui restaient là, pouvaient conduire les troupeaux, mais le terrain avait été détruit. Ils se tournent vers l'Est, en parlant de Moab et des Ammonites. Là, c'est intéressant parce que il dira au verset 9, « Moab sera pareil à Sodome, les Ammonites pareils à Gomorre. » Sodome et Gomorre, c'était les villes qui avait été frappé par Dieu suite à l'immoralité sexuelle qui y régnait. C'était le terrain qui était plus fertile et que Abraham avait laissé choisir à Lot. Lot avait eu des relations incestueuses avec ses filles qu'il avait saoulées, et c'était la source des Moabites et des Ammonites. Donc, c'est intéressant de dire que le jugement qui va tomber sur Moab et Ammon, les territoires qui étaient à l'est de Jérusalem, vont subir le même sort que Sodome et Gomorre. Leur problème, c'était l'orgueil. Verset 10, ils avaient insulté le peuple de l'Éternel, s'étaient attaqués à lui. L'Éternel allait être redoutable contre eux. Il allait supprimer de leur milieu toutes les idoles. Verset 11. Ils se tournent vers le sud, les Éthiopiens seraient transpercés par l'épée. Certains parlent des Couchites ou d'autres parlent d'Égypte, mais vers le sud aussi, ça allait être terrible. Donc, ouest, est, sud, il reste le nord. Il regarde la Syrie et il fera de Ninive, on en avait parlé avec Nahum, une terre dévastée, aride comme le désert. Ça, c'est arrivé en 612 avant Jésus-Christ. Et donc, il prophétise la démise, la chute de Ninive. Là aussi, ça allait être transformé en territoire pour les animaux, pour les plantes sauvages. Et puis au verset 15, il parle de cette ville joyeuse qui siégeait en sécurité, qui disait dans son cœur « moi et rien que moi ». Là, on pense que quand il parle après « malheur à la ville, rebelle et souillée », là, il passe de Ninive à Jérusalem. Il nous donne des raisons pour les causes du jugement de Jérusalem et de Juda. Il n'en donne pas en détail pour les autres nations païenne, parce qu'il sait qu'il y a des prophètes qui ont décrit tous leurs péchés avant lui. Et dans le Nouveau Testament, on peut lire des passages qui décrivent ces péchés, comme le premier chapitre de Romains. Mais là, il va expliquer pourquoi Jérusalem et Juda doivent être jugés. Verset 2, elles n'écoutent aucune voix, elles n'acceptent pas la correction, elles ne se confient pas en l'Éternel, elles ne s'approchent pas de son Dieu. Tout un programme. On refuse d'écouter le conseil des autres. Elle ne veut pas être corrigée. Elle ne prie pas, elle ne se tourne pas vers Dieu, elle ne se confie pas en l'Éternel. Et surtout, elle n'y a pas de proximité avec Dieu. Dieu, c'est soit un concept, soit quelqu'un qu'on a oublié, qu'on ignore, pour d'autres dieux ou avec d'autres dieux. Ses chefs au milieu d'elle sont des lions rugissants. Ses juges sont des loups du soir qui ne gardent rien pour le matin. Ses prophètes sont des indisciplinés, il y avait des faux prophètes. Ses prêtres profanent les choses saintes. Ils violent la loi, c'est-à-dire la parole de Dieu. Mais Dieu, en contraste, est juste. Au milieu d'elle, verset 5 du chapitre 3, l'Éternel est juste, il ne commet aucune injustice. Chaque matin, il rend ses jugements sans jamais y manquer. Celui qui est injuste, encore une fois, ne connaît pas la honte. Les pires pécheurs ne sont pas gênés par leur péché. J'ai supprimé des nations, leurs tours seront détruites. J'ai dévasté leurs rues, plus aucun passant. Leurs villes seront désertes, plus aucun homme, plus aucun habitant. Et il y a toujours ce désir chez Dieu de pardonner et d'accepter ceux qui se repentent. Il dit, verset 7, « Je disais, si au moins tu voulais me craindre, accepter la correction. » Ton habitation ne serait pas détruite. Toutes les interventions dont je t'ai menacé n'arriveraient pas. Mais ils se sont empressés de pervertir toutes leurs actions. Et donc ce désir, et ça s'applique à nous. Aussi loin ayons-nous été dans le péché, du rejet de Dieu, on peut accepter la correction et il nous promet qu'il ne nous détruira pas. Les menaces qu'il a pu nous présenter ne s'appliqueront pas à nous. Verset 8, promesse de restauration. « Attendez-moi donc, déclare l'Éternel, le jour où je me lèverai pour le butin, car j'ai décidé de rassembler les nations, de rassembler les royaumes pour déverser sur eux ma fureur, toute l'ardeur de ma colère. Oui, toute la terre sera dévorée par le feu de ma jalousie. À la fin de cette période de tribulation de 7 ans, il y aura ce qu'on appelle des fois la bataille d'Armageddon qui est décrite. Il y fait allusion dans Matthieu 24, dans l'Apocalypse. La bataille d'Armageddon, c'est intéressant, quand on va en Israël, on voit la vallée, ce qu'on appelle des fois la vallée de Jisréel. C'est une plaine où il y a déjà eu beaucoup de bagarres, de combats dans l'histoire, de batailles. Armageddon, c'est la montagne de Megiddo. On peut visiter aujourd'hui Megiddo, on peut voir l'endroit. Toute la terre, il va déverser sa colère. Ça va être une bataille terrible. Où il est même dit qu'il y aurait du sang jusqu'aux morts, M-O-R-S, des chevaux. Et quelqu'un s'était livré au calcul de se dire, pour remplir une telle étendue avec autant de sang, il faudrait beaucoup plus de personnes qu'il y en a sur la terre ou quelque chose. Et quelqu'un a réalisé qu'en fait, dans cette plaine, ce qui ferait monter le niveau du sang si haut, c'est qu'il y aurait tous les cadavres, non seulement des hommes, mais aussi des chevaux. Je livre ça pour dire encore qu'on peut avoir une approche sérieuse de toutes ces prophéties et se poser des questions. On n'a pas toutes les réponses, mais... Et puis, il termine encore sur des paroles d'encouragement, des paroles de... Fantastique. Je donnerai au peuple des lèvres pures afin qu'ils fassent tous appel au nom de l'Éternel pour le servir d'un commun accord, avec une seule épaule. Il va rassembler des gens qui se seront repentis et ça va être la prospérité dans la période du millénium. Le reste, verset 12, le reste d'Israël ne commettra pas d'injustice, il ne dira pas de mensonge, il n'y aura pas dans la bouche une langue trompeuse, mais ils pourront se manger, se coucher sans que personne ne les trouble. Pousse des cris de joie, fille de Sion, pousse des cris d'allégresse, Israël, réjouis-toi et exulte de tout ton cœur, fille de Jérusalem. L'Éternel a détourné de toi les jugements, il a éloigné ton ennemi. Le roi d'Israël, l'Éternel, est au milieu de toi. C'est une allusion à Jésus, le descendant de David. L'Éternel est au milieu de toi, tu n'as plus à redouter le malheur. Ce jour-là, on dira deux choses à Jérusalem. N'aie pas peur. Ne baisse pas les bras. Ne sois pas découragé. Et on arrive à ce verset 17. La première fois que je l'avais lu, en lisant la Bible, d'un bout à l'autre, j'ai dit, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui est dit là? De qui il parle? L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour, puis il se réjouira à grands cris à ton sujet, ou il se réjouira à ton sujet avec des chants de joie. J'ai dit, peut-être qu'il parle de Jésus, d'accord, on peut comprendre qu'il soit vraiment heureux, qu'il a envie de chanter quand il considère Jésus, mais là il parle du peuple, son peuple. Donc à l'époque c'était le peuple d'Israël, mais c'est aussi l'Église aujourd'hui. On décrit beaucoup l'Église, elle est bien imparfaite, il y a plein de problèmes, il y a des divisions, il y a du péché caché, il y a de la malhonnêteté, des tas de choses. Dieu pardonne-nous. Mais ça s'applique à toi, ça s'applique à toi, ça s'applique à moi. Il fera de moi sa plus grande joie. C'est incompréhensible. Il va garder le silence dans son amour et puis il va chanter des chants de joie. Imaginez ce que vous entendez, la voix du Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel, de la terre, des astres, de tout l'univers, qui a envie de chanter quand il pense à vous. Dieu vous aime. Et il vous voit comme vous allez être si vous continuez avec lui, si vous êtes vraiment à lui. Je sais pas, mais j'ai pas envie de faire un chant pour moi-même. Mais lui, il a un chant. Il fait de vous le sujet de sa joie et il chante. On n'a pas le temps, mais on pourrait prendre 5 minutes juste pour se dire, est-ce que c'est vraiment ce qu'on a lu? Est-ce que c'est vraiment ce que veut dire le texte hébreu? Mais c'est la promesse de la bénédiction de Dieu. Verset 18, « Je rassemblerai ceux qui sont dans la tristesse, loin des fêtes solennelles, ceux qui sont loin de toi sous le poids du déshonneur. À ce moment-là, j'agirai contre tous les oppresseurs, je délivrerai les boiteux, je rassemblerai ceux qui ont été chassés, je ferai d'eux un sujet de louange et de gloire dans tous les pays où ils sont méprisés. À ce moment-là, je vous ramènerai, à ce moment-là, je vous rassemblerai. Oui, je ferai de vous un sujet de gloire et de louange parmi tous les peuples de la terre, quand je ramènerai vos déportés sous vos yeux, dit l'Éternel. » 5 étapes de réconfort. L'Éternel est au milieu de nous. Il a la puissance de sauver. Il fait de nous sa joie, la plus grande. Il nous donne du repos dans son amour. Quand on est stressé, allons nous réfugier dans ses bras. Recevons son amour, même dans les cas de crise. C'est pas pourquoi ça m'arrive, mais vers qui je me tourne. Et puis, la dernière étape, il chante sur nous. Est-ce que c'est glorieux ou pas? Est-ce que ce livre est vraiment dans la Bible ou pas? Pourquoi est-ce qu'il est si peu connu? Parce que l'ennemi ne veut pas qu'on sache que Dieu se réjouit à ce point de chacun de vous, à chacun de nous. Amen. Prions. Seigneur, merci pour cette incroyable prophétie. Tu es un Dieu qui utilise la chirurgie des épreuves qui parfois peuvent être terribles pour nous guérir du péché, pour nous guérir du cancer du péché, Seigneur. Mais tu le fais parce que tu nous aimes. Et Seigneur, merci pour ce verset 3:17. On connaît beaucoup de versets 3:16 dans la Bible. Il faut ajouter celui-là, le 3:16, on y est presque, c'est le 3:17, pour se rappeler que tu as tellement de joie quand tu penses à nous, Seigneur. Et Seigneur, quand je prends conscience de cette joie, de cet amour, de cette pureté, j'ai envie de te chanter. J'ai envie de vivre pour toi. J'ai envie d'être purifié par toi, Seigneur. Continue ton œuvre. Sois glorifié parmi nous, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen.